un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Les députés de la majorité proposent une nouvelle réécriture de l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Nous analysons cette décision avec Stéphane Robert. Au procès de l'affaire des écoutes, où Nicolas Sarkozy comparaît pour corruption et trafic d'influence, la défense tente de faire annuler l'ensemble de la procédure. Anne Fauquemberg suit l'audience. En Italie, la crise sanitaire profite à la mafia. Elle rachète en cash des magasins et des restaurants. Le moyen pour elle de blanchir les revenus de ses activités criminelles, c'est le dossier de ce journal. Et puis nous irons en Inde, où des dizaines de milliers d'agriculteurs manifestent à l'entrée de New Delhi. Ils dénoncent des réformes libéralisant les marchés agricoles. Alors comment se sortir de ce mauvais pas? Depuis qu'a été présentée la proposition de loi sur la sécurité globale, l'article 24 concentre toutes les critiques. Opposition, défenseurs des libertés publiques, journalistes ont manifesté pour le dénoncer. Et les inquiétudes ont été ravivées après la diffusion d'images montrant le tabassage du producteur de musique Michel Zecler par trois policiers. La commission envisagée par le Premier ministre pour revoir cet article 24 a elle aussi fait des vagues, cette fois chez les parlementaires. Alors il fallait de toute urgence trouver une solution. D'où la réunion organisée aujourd'hui à l'Élysée. Elle débouche ce soir sur une proposition formulée par les présidents des groupes LREM, Modem et Agir. Une nouvelle écriture complète de l'article 24, Stéphane Robert.
L'article 24 du projet de loi sur la sécurité globale ne peut pas être conservé en l'état, a dit le chef des députés Modem, Patrick Mignola, parce qu'il n'a pas été compris par la population.
On est arrivé à se débrouiller, et c'est un tort. Il faut savoir reconnaître ses torts pour que un doute s'installe. Il faut lever ce doute.
La majorité va donc s'attacher à réécrire cet article 24. Olivier Becht préside le groupe Agir, allié de La République En Marche à l'Assemblée nationale.
C'est ce que nous allons faire. Nous allons écrire un article qui permettra d'assurer ce que nous souhaitions, c'est-à-dire assurer le respect des forces de l'ordre, mais qui ne puisse pas faire place à la polémique, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas croire que derrière nous souhaitions atteindre la liberté de s'exprimer, mais aussi de diffuser des images.
Christophe Castaner, lui, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, est allé encore un peu plus loin en souhaitant clarifier les intentions de la majorité à travers ce projet de loi.
En aucun cas, nous ne voulons contraindre les journalistes et citoyens à flouter les visages des forces de l'ordre. En aucun cas, nous ne voulons demander aux journalistes de s'accréditer dans une manifestation. En aucun cas, la volonté de l'article 24 était d'atteindre à la liberté de la presse ou à la liberté d'informer.
Il n'y avait pas de volonté de flouter les images des policiers, pas de volonté de demander aux journalistes de s'accréditer lors des manifestations. Ces propos sonnent comme un démenti à ce qu'avait pu dire le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et cette volonté de réécrire l'article 24 fait figure de machine arrière du pouvoir exécutif. Emmanuel Macron a, semble-t-il, décidé qu'il était temps d'éteindre l'incendie.
Stéphane Robert et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit être auditionné à l'Assemblée nationale dans les minutes qui viennent pour s'expliquer sur les conditions dans lesquelles les forces de l'ordre ont eu recours à la force à Paris lors de différents événements. Autre difficulté pour le gouvernement, mais dans un autre registre, il a jusqu'à mercredi pour trouver la juste jauge pour les rassemblements dans les lieux de culte. Celle de 30 personnes qui avait été annoncée a été jugée disproportionnée par le Conseil d'État. Alors quelles sont les pistes explorées, Antoine Maret?
Depuis le début de cette affaire, la Conférence des évêques de France plaide pour une jauge proportionnelle. Ses responsables l'ont répété hier lors d'une rencontre avec le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Le porte-parole de la conférence, Vincent Némon.
Nous avons redit de notre côté que nous souhaitions la mise en place d'une jauge à 30%, enfin un tiers, on va dire, d'occupation des églises, ce qui était déjà présent dans le protocole sanitaire qui avait été remis il y a quelques semaines maintenant au ministre de l'Intérieur à sa demande.
Et le gouvernement va donc devoir prendre une décision rapidement. Il a jusqu'à mercredi pour revoir sa copie.
Pour l'instant, nous attendons de savoir quelles vont être les décisions du gouvernement qui souhaite, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il veut mettre à profit ces trois jours, entendre aussi les autres responsables de culte pour donner une jauge réaliste, ainsi d'ailleurs que l'avait rappelé le président de la République au président de la Conférence des évêques de France. Nous souhaitons une jauge réaliste, c'est-à-dire applicable, de manière à ce que les fidèles, c'est le plus important, les fidèles puissent venir dans les églises, rassurer d'une part à cause des conditions sanitaires qui seront respectées, et rassurer d'autre part parce qu'ils auront l'impression d'avoir un exécutif qui respecte et qui leur permet de pratiquer leur religion.
C'est la deuxième fois que le gouvernement est recadré par le Conseil d'État au sujet des cultes en temps de Covid. Au printemps dernier, l'interdiction des cérémonies religieuses avait été cassée par la plus haute juridiction administrative.
Il faut déconfiner avec précaution et éviter toute erreur en termes de stratégie vaccinale. La Haute Autorité de Santé a publié aujourd'hui ses recommandations. Quand un vaccin sera disponible, il devra aller en priorité aux résidents des EHPAD et à ceux qui prennent soin d'eux. Les maisons de retraite médicalisées, qui payent un lourd tribut depuis le début de cette crise sanitaire, apprécient Tara Schlegel.
Oui, notamment le Sinerpa, qui regroupe près de 2000 EHPAD et se dit très favorable à la future vaccination. Florence Arnaise-Maumet est déléguée générale et en tant que professionnelle du secteur médico-social, elle veut y croire.
C'est vrai que nous avons une tendance à faire confiance aux autorités sanitaires qui vont délivrer les autorisations de mise sur le marché. La France est un pays que l'on connaît très précautionneux pour la mise en route des vaccins. Nous-mêmes, nous, chaque année, nous avons besoin du vaccin de la grippe, donc nous sommes en lien avec les laboratoires
dont le rôle est justement de vérifier l'innocuité du vaccin. D'ailleurs, les maisons de retraite ont l'habitude de ces campagnes.
Les résidents sont dans leur grande majorité très volontaires. On a des taux de vaccination contre la grippe chez les résidents qui avoisinent les 80-85%, et ce chaque année. En revanche, sur le taux de vaccination des salariés contre la grippe, c'est plus faible habituellement. Pour autant, cette année, il y a eu un rebond puisque on affiche des taux de vaccination chez nos salariés aujourd'hui qui peuvent atteindre 50 à 60%.
C'est presque deux fois plus que les autres hivers quand les personnels ne sont que 30% à accepter un vaccin contre la grippe. Florence Arnaise-Maumet a donc bon espoir que le futur vaccin, qui reste volontaire, soit largement adopté afin de contribuer, si jamais elle devait déferler, à endiguer une troisième vague épidémique, car aujourd'hui la deuxième est en train de refluer dans les EHPAD, se félicite le Sinerpa.
Tara Schlegel, le vaccin anti-Covid-19 de Moderna est entré dans la dernière ligne droite. Le laboratoire américain dépose ses demandes d'autorisation aujourd'hui aux États-Unis et en Europe. Moderna qui affirme que son vaccin est efficace à plus de 94%. L'impact économique de la crise sanitaire se fait douloureusement sentir en Italie, en particulier dans les villes dont l'équilibre repose sur le tourisme. Et les commerçants au bord de la faillite sont des proies faciles pour la mafia. Depuis plusieurs mois, elle rachète des bars, des restaurants, des magasins. Une occasion en or pour elle de s'infiltrer dans l'économie légale. Le reportage à Rome de Bruce de Galzin.
Nous sommes dans le cœur historique de Rome. D'un côté de la rue, le palais du Quirinal, siège de la présidence de la République. De l'autre côté, le Colisée. Cœur touristique, mais sans touristes. Et sans clients pour Ignazio, il tient un magasin alimentaire de spécialité de sa région du Sud. Il est à Rome depuis 25 ans. Dans sa boutique, Ignazio veut rester anonyme, car la mafia ne le lâche pas. En plein confinement, au mois d'avril, il est resté ouvert tout en perdant 80% de son chiffre d'affaires. Un matin, deux hommes poussent la porte du magasin.
J'étais à la caisse là et des personnes sont entrées, m'ont demandé si la crise, la période est difficile, mais vous ça va? Vous faites comment pour vous en sortir? Si vous voulez vendre, nous on peut acheter. Et ils m'ont fait une proposition en cash de 20-30 000 euros. Mais un magasin qui vaut 200 000 euros et même plus ne peut pas être vendu 20 ou 30 000 euros. À chaque fois, on a dit non, mais ils ont insisté, ils sont revenus plusieurs fois.
Et Ignazio n'a jamais lâché, même s'il manquait d'argent. Puisqu'il n'a touché de l'État que 600 euros depuis le début de la crise. S'il n'a pas lâché, c'est aussi parce qu'il y a 10 ans, il est déjà tombé dans le piège de l'usure. Problème d'argent, un ami d'un ami lui prête 10 000 euros, puis un peu plus, jusqu'à 30 000. Mais les taux d'intérêt deviennent délirants. Ignazio remboursera 240 000 euros. Chaque soir, il devait sortir 100-200 euros de sa caisse. C'est sa femme, Maria, qui va y mettre fin.
Il ne disait pas grand-chose parce qu'il voulait me protéger. Mais au bout d'un moment, je m'en suis rendu compte. Ce n'était pas possible qu'un homme vienne tous les soirs. Alors un soir, mon mari n'était pas là. L'homme m'a trouvée toute seule. Et je lui ai dit, à partir de ce soir, tu n'auras plus un sou. J'en ai marre. J'ai crié. Et basta. Je l'ai jeté dehors. Maintenant, c'est fini. J'appelle les carabiniers. Et ils sont arrivés peu de temps après. Mais il s'est défendu devant les carabiniers. Il ne s'est pas enfui alors qu'il pouvait être poursuivi. Non, il est resté. Il a même donné ses papiers. Et je lui ai dit, demain matin, j'irai porter plainte. Et depuis, je ne l'ai plus revu.
Usure, extorsion et maintenant tentative de rachat illégal des commerces en plein centre-ville. Derrière tout cela, il y a des mafias. Luigi Ciacci est avocat. Il a créé il y a 25 ans une association, l'Ambulatorio Anti-Usura de Rome, qui lutte contre le racket et l'usure. Il nous reçoit dans une salle à peine aménagée au rez-de-chaussée d'une mairie de quartier derrière la gare Termini. une salle anonyme où Luigi Ciatti reçoit aussi les commerçants qui osent appeler à l'aide et s'opposer à la mafia.
La mafia cherche à acquérir des entreprises pour pouvoir recycler de l'argent, pour placer dans l'économie légale, à la lumière du jour, les revenus des activités criminelles typiques des mafias, comme le narcotrafic, l'extorsion, l'usure. Donc la vraie menace, ce n'est pas vraiment l'usure. Nous risquons surtout d'avoir toute une économie corrompue. Elle pourrait finir en quelques années et même en quelques mois entre les mains des mafias. Et ça, c'est un énorme problème, évidemment.
Et les mafias sont en train de gagner ce pari, selon Luigi Ciatti, qui réclame la création d'un registre spécial pour enregistrer les cessions d'activités en ce moment si particulier.
Bruce de Calzin à Rome. Deux jours après la réouverture des librairies, le plus prestigieux des prix littéraires a été attribué à Paris dans un contexte inédit. Le prix Goncourt 2020 revient à Hervé Le Tellier pour l'anomalie, mais l'annonce n'a pas été faite au restaurant Drouan. Il n'y a donc eu ni délibération à table, Benoît Grossin, ni bousculade avec les journalistes à l'arrivée du lauréat.
Et non, en l'absence du rendez-vous habituel chez Drouan, Hervé Le Tellier était, comme les membres du jury, en visioconférence pour apprendre la bonne nouvelle à distance et sans trop y croire.
On ne s'attend jamais, je crois, à un prix comme le Goncourt. C'est pas quelque chose que... D'abord, on n'écrit pas pour avoir un quelconque prix. Comme c'est un prix très symbolique, le fait d'espérer l'avoir est vraiment... Enfin, c'était pas du tout dans mon projet.
L'anomalie, un livre pourtant repéré par la profession dès sa sortie, Anne Martel, présidente du syndicat de la librairie française, remercie l'Académie Goncourt d'avoir décalé l'annonce du lauréat.
Les Goncourt ont eu l'élégance d'attendre la réouverture du librairie pour donner leur choix et annoncer le résultat. Et ça, on peut leur en être gré. Parce que le Goncourt, on sait qu'en librairie, eh bien, ce sont des ventes très très fortes pour la fin de l'année. Quand on sait qu'entre novembre et décembre, il y a un quart du chiffre d'affaires de la librairie qui est fait, sachant que là, on a eu 3 semaines de fermeture et qu'il y a à peu près 360 000 exemplaires du Goncourt qui se vend et que 40% des ventes se font en librairie physique, c'est quand même très très important pour la librairie. Et je pense que aussi, ça va donner une émulation pour la vente des livres, parce qu'on sait très bien que quand il y a des titres importants qui sortent, forcément ça rejaillit sur les autres titres.
Et ne serait-ce que dans sa librairie à Amiens, pour Anne Martel, l'anomalie du président de l'Oulipo, l'ouvrage de littérature potentielle, pourrait donner envie aux lecteurs de se plonger davantage dans l'écriture sous contrainte.
C'est un roman qui, effectivement, est très structuré, qui aussi entre polar et fantastique, qui nous fait réfléchir sur différentes choses, notamment sur la notion du double. Et faut pas que le mot Oulipo fasse peur à ceux qui ne connaissent pas bien cet univers. C'est un livre qui se lit très, très, très bien et qui est vraiment passionnant.
Et qui fait penser à Georges Perec?
Bah, évidemment, si on parle Oulipo, on pense à Perec, on pense à la disparition, et puis on pense à ces 300 pages et quelques écrites sans la lettre E, parce que eux ont disparu aussi. Donc c'est toujours des lectures et des écritures à plusieurs niveaux. Et il faut donner envie aux gens d'aller fouiller, d'aller regarder ce que c'est. C'est un espoir sur le plan de la création, c'est un espoir sur le plan de la lecture, c'est un espoir sur le plan de la vie littéraire en France.
L'anomalie d'Hervé Le Tellier parmi les 6 finalistes également du Goncourt des lycéens qui sera décerné mercredi devrait conquérir de nombreux lecteurs. Le roman, selon Livre Hebdo, s'est déjà vendu à plus de 25 000 exemplaires.
Et c'est Marie-Hélène Lafont qui remporte le prix Renaudot du roman pour Histoire du fils. Après le faux départ de la semaine dernière, le procès dit des écoutes a repris aujourd'hui. Nicolas Sarkozy est soupçonné, avec son avocat Thierry Herzog, d'avoir tenté de corrompre Gilbert Azibert, alors en poste à la Cour de cassation. Anne Fauquemberg, vous suivez le procès pour France Culture et la défense tente de faire annuler toute la procédure. Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, est longuement revenue sur l'enquête controversée qui a été menée en parallèle de l'instruction. Oui, pour Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, il y a eu en effet deux enquêtes. Une instruction qui a conduit à ce procès pour corruption et trafic d'influence et une enquête préliminaire cachée à la Défense pendant 6 ans, insiste-t-elle. C'est l'enquête dite des fadettes révélée par la presse en juin dernier et qui devait permettre de trouver la taupe qui renseignait Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog pour leur dire qu'ils étaient sur écoute. Cette enquête, classée sans suite, a été relancée en 2016 artificiellement, explique Jacqueline Lafont. Pourquoi a-t-elle été disjointe à la procédure? Est-il acceptable que cette enquête ait été cachée et quelles en sont les conséquences juridiques, adresse-t-elle au tribunal? L'avocate aux cheveux noirs s'appuie sur plusieurs documents qui montrent que ces deux enquêtes reposent sur les mêmes faits, notamment une note du 11 juin 2014 d'un vice-procureur du PNF, un acte projeté lors de l'audience. La feuille est certes rayée, mais il est clairement demandé de lier les deux procédures. Droite devant les juges, d'une voix douce et affirmée, elle rappelle aussi que l'inspection générale de la justice, qui a rendu un rapport sur cette enquête controversée, a reconnu un stratagème procédural. Quelle morgue pour la défense, poursuit son confrère Hervé Thémine, bras au ciel. L'avocat de Thierry Herzog dénonce, lui, avec force, la violation du principe de l'égalité des armes, fondateur d'un procès équitable. Puis il s'interroge sur l'absence d'audition menée dans le cadre de l'enquête parallèle. Quant à Dominique Allegrini, l'avocat de Gilbert Azibert, il enfonce le clou. C'est le dévoiement de la puissance publique, selon lui. Comme ses deux autres confrères, il plaide la nullité de toute la procédure.
Anne Fauquemberg, en direct du nouveau palais de justice de Paris avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. En Éthiopie, on a cru un instant la guerre au Tigré approcher de son terme, mais le parti dissident tigréen, le TPLF, assure que la guerre n'est pas terminée. En près de 4 semaines, le conflit a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de déplacés. Ce matin, Noé Oshé-Baudin, le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, s'est adressé longuement à la nation.
2h30 de discours pour encore une fois justifier son intervention militaire. Abiy Ahmed veut surtout minimiser les pressions internationales. Il rassure, les civils au Tigré sont bien protégés. Sur le terrain pourtant, les hôpitaux tigréens débordent de blessés.
99% de nos tirs touchent leur cible. 99% de nos tirs ne font pas de dégâts collatéraux. Avec nos drones, nous sommes d'ailleurs capables de surveiller les leaders de la junte du TPLF. Nous savons où ils sont jour et nuit.
Il promet de bientôt les attaquer et de les traduire en justice. Il réserve le même sort à quelques-uns des dizaines de milliers de réfugiés passés au Soudan, des Tigréens qu'il soupçonne d'avoir commis des massacres ethniques.
Il n'y a ni femmes ni enfants parmi eux. Ceux que l'on nomme les réfugiés sont uniquement de jeunes hommes. L'avenir nous dira qui sont ces jeunes et ce qu'ils ont fait.
Sauf que cette affirmation est fausse. En effet, plus de la moitié des réfugiés sont des femmes et des enfants, assure l'ONU. Autre aspect abordé dans son discours fleuve, le Premier ministre tient également à remercier l'Érythrée pour l'aide qu'elle lui a apportée dans ce conflit contre le TPLF.
Je veux dire que les Érythréens ne sont pas seulement nos sœurs et nos frères. Ils ont aussi prouvé que l'on pouvait compter sur eux lorsque nous avions besoin d'assistance.
De quoi jeter le doute sur le véritable rôle du voisin érythréen accusé de prendre part au conflit mais qui a toujours nié jusqu'à présent. Le gouvernement éthiopien affirme s'être servi du territoire érythréen comme de base arrière.
Noé Oshé-Baudin, correspondant de RFI à Addis Abeba pour France Culture. En Inde, des dizaines de milliers de paysans protestent contre la libéralisation de l'agriculture. Ils dénoncent les décrets adoptés il y a 2 mois par le gouvernement fédéral, décrets qui faciliteront l'entrée des entreprises privées dans le secteur. Venus principalement de la région du Pendjab, les agriculteurs en colère veulent manifester à New Delhi, mais ils sont bloqués à l'entrée de la capitale. Sébastien Farcy les a rencontrés.
Des dizaines de tracteurs sont garés en travers de l'autoroute et bloquent l'une des entrées dans le nord de New Delhi. Au moins 3000 paysans du Pendjab siègent ici car la police leur interdit d'entrer pour manifester. Jasbir Singh Pidi est le vice-président du Kisan Mazdoor Sangash Committee à la tête du mouvement.
Nous avons commencé notre protestation il y a 2 mois au Pendjab et demandant le retrait de 5 décrets du gouvernement, car s'ils les maintiennent, les entreprises comme Adani vont s'emparer des terres agricoles et les agriculteurs ne seront plus que des ouvriers à leur merci.
Jusqu'à présent, les transactions agricoles doivent se faire sur le marché public où un prix minimum est garanti pour les denrées essentielles. Or, cette réforme permet aux entreprises d'acheter aux paysans hors de ce marché. Le gouvernement soutient que c'est une nouvelle opportunité pour les agriculteurs, mais ces derniers, comme Azad Veer Singh, désapprouvent.
Nous pouvons déjà faire affaire avec les entreprises privées. Par contre, le marché public nous assure un prix minimum. Mais si le nouveau système privilégie les entreprises privées, alors le marché public va disparaître et ces compagnies vont décider des prix qui les arrangent.
Le gouvernement leur a offert un terrain à l'extérieur de Delhi pour manifester, mais les agriculteurs considèrent que c'est une manière d'éloigner le mouvement. Le dialogue est mal engagé, mais les paysans sont prêts à tenir le siège, assure le militant Jasbir Singh Pidi.
Nous avons des camions remplis de nourriture et de farine et plus d'un millier de paysans nous rejoignent tous les jours. Nous avons déjà coupé plusieurs axes vers Delhi, nous sommes prêts à couper la ville s'il le faut, mais nous ne laisserons pas les entreprises s'accaparer nos terres.
Les paysans d'autres États ont commencé à rejoindre le mouvement, laissant poindre la possibilité d'une révolte nationale des paysans. Ceci serait très périlleux dans un pays où près d'un actif sur deux travaille dans le secteur agricole.
Sébastien Farcier, correspondant de RFI et France Culture en Inde. Demain mardi, un temps souvent gris sur l'Hexagone, des éclaircies surtout l'après-midi sur un grand quart nord-ouest. Les températures maximales iront de 4 à 12 degrés jusqu'à 14 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.